Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus au 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jaume, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez et qui se nomme Votre santé un trésor. J'ai le plaisir de recevoir le docteur Farzam Gaemagani. Le docteur Farzam possède plusieurs compétences professionnelles, il est à la fois médecin, pharmacien, praticien, écrivain, directeur d'une maison d'édition, la maison Hugo Stern qui se situe à Lyon, et c'est là que nous le rencontrons. Bonjour à vous, Farzam Gaemagani.
Bonjour à vous et à tous vos auditeurs. Je suis ravi d'intervenir dans votre émission.
Eh bien, nous aussi, nous sommes absolument ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui. Alors, avant de vraiment commencer l'émission, puis-je vous appeler Farzam ? Car je vais avoir certainement des difficultés de prononciation. Et ce n'est jamais bon en radiophonie.
Sans aucun problème, avec plaisir, c'est même plus sympathique.
Allez. Bon, mais je vous remercie, Farzam. Alors, pourriez-vous tout d'abord nous présenter vos différentes activités et votre statut, puisque vous m'avez dit que vous aviez deux doctorats.
Bon, ça, c'est pas vraiment important. J'ai suivi mes études à l'Université Claude Bernard à Lyon, en médecine pharmacie de Lyon. Ma spécialisation est essentiellement physiologie et pharmacologie cardiovasculaire et rénale. Pendant quelques années, j'ai travaillé un peu pour CNRS quand je finissais un peu mes études, ce qui m'a permis de, entre autres, prendre connaissance et découvrir le monde d'expertise scientifique pour le compte des laboratoires pharmaceutiques, etc. Mais j'ai rapidement constaté que l'axe de recherche des laboratoires hospitaliers universitaires est souvent figé, ce qui ne correspondait pas vraiment à ma nature un peu curieuse.
D'accord. Donc, vous avez un doctorat en médecine ?
Oui, j'ai un doctorat en pharmacologie, faculté de médecine et pharmacie physiologique et en cardiovasculaire. J'ai donc créé ma propre structure de recherche. Pendant une vingtaine d'années, nous avons mené nombreux domaines différents puisqu'on travaillait pour d'autres laboratoires, donc il fallait être multitâche. Et c'est pour ça qu'un peu mes ouvrages actuels sont dans différents domaines. Et ce n'est pas parce que j'ai choisi un domaine en disant « je vais faire ça ». C'est parce que j'ai travaillé dessus et que j'ai approfondi le sujet.
En fait, vous êtes chercheur au niveau médecine.
Voilà, j'ai quasiment... Mais vous je fais de la recherche.
Voilà, mais vous écrivez aussi, et pourquoi et comment, et qu'avez-vous publié comme article, comme ouvrage, comme communication ?
Alors, pendant les premières années de la fac, où j'ai travaillé à la fac, comme tout universitaire, on publie dans des revues internationales, bon, ça, tout le monde le sait. Mais après, une fois que j'ai créé la société, le laboratoire indépendant. Le destin fait qu'on travaille sur des sujets et que ces sujets emmènent à des activités. Un des domaines dans lequel je travaillais, c'est la nicotine.
Oui.
Et j'avais mis au point un dosage pour le sevrage tabagique. Je travaille avec les hôpitaux de Lyon.
Oui.
Et grâce à ça, on m'a demandé, le professeur Sepetjian, à l'époque, qui avait créé un DEU de tabagologie, m'a demandé d'enseigner à la fac.
D'accord.
Et comme j'avais déjà préparé tout le travail d'enseignement, de préparation de cours, à la suite de ça, je me suis dit, pourquoi pas sortir un livre, ça c'était mon premier ouvrage, dans le domaine de tabacologie.
D'accord.
Et après ça, c'est un virus qui m'a pas quitté.
D'accord, écriture. Oui, je connais. Et alors, vous êtes aussi directeur d'une maison d'édition. Alors pourquoi ? Et que publiez-vous dans cette maison d'édition ? Parlez-nous aussi de votre équipe.
Alors, pourquoi ? La première raison, parce que c'est une démarche intéressante et enrichissante. Édition, ça complète un peu tout le travail de recherche que je fais. Et en plus, ça permet de prendre contact avec d'autres personnes et donc approfondir cet enrichissement. J'avais en tête, si vous voulez, après mon premier livre, de publier dans d'autres domaines, mais le problème, c'est que ces domaines-là sont souvent des niches de recherche.
Oui.
Par exemple, si je prends un exemple d'un de mes ouvrages, l'Homospatium, qui parle des problèmes de santé chez les astronautes, ça intéresse pas.
Oui, les éditeurs sont réticents. Alors, vous êtes fait votre
maison. Ils ne sont pas philanthropiques.
Voilà, vous êtes fait votre maison d'édition pour pouvoir vous publier, mais vous publiez d'autres auteurs. C'est-à-dire que nos auditeurs peuvent vous adresser leurs manuscrits et vous en prendrez connaissance.
Bien sûr. Dans un premier temps, donc c'était un peu pour pouvoir éditer mes livres. Mais l'auto-édition, ça ne m'intéressait pas parce que d'abord, ce n'est pas bien vu par le libraire. Deuxièmement, c'est une diffusion limitée. Donc, j'ai dit pourquoi pas créer véritablement une maison d'édition.
D'accord.
C'est ce qu'on a fait et en 5 ans, on est arrivé aujourd'hui à 100 d'auteurs. Donc,
bon, et alors, rappelez-nous le nom de votre maison d'édition. Alors,
l'édition s'appelle Édition Hugo Stern, donc à Lyon.
D'accord, très bien. Et vous avez une équipe ?
Alors, nous avons une équipe un peu dans tous les domaines.
Vous avez plusieurs collaborateurs.
Correction des manuscrits, création de pochettes, de tout ça. Et après ça, nous avons un distributeur-diffuseur qui s'occupe de la vente des livres chez les libraires.
Très bien. Alors, nous allons aborder aujourd'hui la communication non verbale. En nous adossant sur votre ouvrage, Phéromone, la sémiochimie inconsciente, Phéromone putative humaine. Alors, c'est un ouvrage important, un peu technique, mais qui est très très important. Je pensais que c'était intéressant d'en parler parce qu'il parle de la communication non verbale. Il a près de 650 pages. Alors, la communication, c'est établir une relation avec quelqu'un ou quelque chose, c'est être en rapport avec. La communication est l'ensemble des interactions avec un tiers, humain et animal, et pourquoi pas autre qui véhicule une ou plusieurs informations. On distingue la communication interpersonnelle, la communication de groupe et la communication de masse. On peut définir une approche en 7 points pour communiquer de manière claire et efficace et facile. C'est les 7 C, comme C comme communication. Il faut trouver une cible, des coordonnées, de la créativité, cohérence, concrétisation, concision et correction. Nous pouvons individualiser 4 formes de communication, une communication qui est directe, indirecte, verbale et non verbale. Évidemment, c'est cette communication non verbale qui nous intéresse aujourd'hui avec vos travaux et notamment avec votre ouvrage qui est important, avec une très très importante bibliographie. Donc c'est un ouvrage scientifique, mais qui est important pour avoir une notion de cette communication non verbale. Alors, pour vous, la communication, c'est quoi et qu'est-ce que la communication non verbale ?
Alors, la communication, en général, implique en premier lieu l'émission d'une information. Mais il n'est absolument pas nécessaire que la communication soit bidirectionnelle. Bon, quand c'est bidirectionnel, c'est plus enrichissant et plus agréable, mais ce n'est pas une obligation. Par exemple, un journaliste qui communique une information, en général, n'attend pas de réponse directe de la part des auditeurs. Pourtant, il communique l'information. Mais en revanche, pour qu'une information soit considérée comme une communication, elle doit être absolument délibérée, voulue.
Oui, oui.
Ces deux notions d'information sont souvent confondues.
D'accord.
Par exemple, le matin, quand vous sortez, la nature vous offre une information concrète, vous avez froid. Vous captez cette information grâce à vos récepteurs, mais la nature n'avait pas décidé de vous le dire.
Oui, oui.
Il fait froid, bah vous le captez.
D'accord.
De même, lorsque vous posez votre main sur une plaque chaude, par exemple,
oui.
Vous tirez votre main, et il n'a pas décidé de vous le dire. Il est chaud, c'est tout.
D'accord.
Alors, pour répondre à votre question sur le caractère non verbal de la communication, je dirais même, il n'y a que ça.
Oui,
quasiment que ça.
C'est plus important les communications non verbales que les communications verbales.
La parole réservée à l'homme, on est 7 milliards. Rien que dans un corps humain, il y a 15 000 milliards de cellules qui communiquent.
D'accord. Oui, donc les
communications. Vous comprenez très bien.
Oui, bien sûr, même.
La communication.
La communication avec les animaux ne se fait pas en totalité avec le verbal, et avec les végétaux, elle ne se fait pas du tout avec le verbal.
Encore moins, bien sûr.
Voilà. Alors, intéressé, séduit par le pouvoir des odeurs, et en particulier les flagrances, j'ai moi-même rédigé un ouvrage, Sentir son vécu, aux éditions Acarias l'original, où je propose une démarche thérapeutique originale qui mêle hypnose et sophrologie et flagrance. J'ai eu de très bons résultats avec cette méthode. Alors, pour vous, le pouvoir des odeurs, c'est quoi ?
Alors, dans ce domaine-là, vous avez tout à fait raison. Nos sens, qu'il s'agisse d'odorat, l'ouïe, goût ou le toucher, sont comme des... en quelque sorte comme la page sommaire d'un livre, le livre de nos souvenirs. Ils évoquent de manière inconsciente, mais très rapidement, nos souvenirs les plus enfouis. Ces souvenirs sont certains bons, certains pas bons. Ils vont alors agir comme des renforçateurs, notion qu'on connaît en addictologie, positive ou négative, pour qu'on ajuste son comportement à ces stimuli. Par exemple, l'odeur à l'aliment qu'on prenait dans notre enfance, rappel de bons souvenirs de la famille, tout ça, et que si jamais une musique a été associée à un événement désagréable, dès qu'on l'entend, on est réticent, et Donc vous avez tout à fait raison, c'est stimuler les sens peuvent très bien arriver à faire sortir les sentiments cachés et aider.
Très bien. Alors que pouvez-vous nous dire de l'univers fascinant de la communication chimique ? Et puisque vous êtes spécialiste, comme vous l'évoquez, à la page 321 de votre ouvrage.
Dans la nature, chez les animaux et chez les plantes, la communication est dans la grande majorité des cas de nature chimique. Même si quelqu'un vous dit par exemple « oui, mais il y a le système nerveux », à la fin du neurone, la communication finale se fait par la sécrétion d'une molécule chimique qui est le neuromédiateur. Et donc, le neurone simplement transmet par l'électricité qu'il génère plus rapidement, mais à la sortie pour la communication chimique.
En fait, la molécule chimique qui est d'une odeur, par exemple, se pose sur un récepteur se transforme après en un flux neurologique qu'on appelle un flux neuronal qui devient de l'électricité, mais au départ, c'est de la chimie.
C'est la chimie, c'est normal. Alors, soit cette information est entre les espèces, c'est-à-dire qu'on appelle ça interspécifique, soit entre différentes espèces. On peut communiquer avec d'autres espèces, et ça, dans ce cas-là, on appelle intraspécifique, c'est des termes qu'on utilise. La communication phéromonale est efficace chez les insectes, par exemple, mais arrive à atteindre une super sophistication chez les insectes sociaux.
D'accord.
On prenait les abeilles, les termites, les fourmis. Toute l'organisation hiérarchie établie, c'est selon la sécrétion des phéromones.
Et ouais. Et en fait c'est, pour vous, c'est quoi une odeur ?
Alors,
c'est un processus chimique, hein, ce sont des molécules chimiques, mais...
Alors, je vais vous décevoir, chez le docteur, c'est que l'odeur n'existe pas.
Bien sûr.
Ce qui existe,
c'est là où je voulais vous amener.
Voilà. Ce sont des molécules chimiques volatiles capables de diffuser dans l'air. Alors, imaginez un instant que vous possédez le dernier smartphone puissant, sophistiqué, mais que vous êtes le seul à avoir dans le monde. Il vous sert à éclairer votre chemin en la nuit. Un émetteur ne sert à rien s'il n'a pas de récepteur. Et c'est tout le problème des odeurs, c'est-à-dire que toute la signification des odeurs est due à la présence des récepteurs spécifiques que nous avons.
D'accord.
Et ça ne s'arrête pas là. Encore plus compliqué, il faut un cerveau et une intégration de ce message.
Et pour vous, la différence entre goût, sensibilité tactile, vue et odeur, il y a une grosse différence ?
Ils sont différents.
Oui, il y a une différence.
L'un ne peut pas substituer l'autre.
Voilà.
Ils sont indispensables. Tout, c'est comme le clavier, le souris, l'écran d'un ordinateur.
En fait, ce que vous dites, c'est important parce que si on veut bien appréhender les choses, il faut goûter, il faut sentir en touchant,
absolument,
il faut voir et il faut entendre. J'ai oublié l'audition, mais c'est entendre et puis il faut sentir. Et
qu'est-ce que,
dites-nous, parce que vous l'abordez dans votre ouvrage, qu'est-ce que l'allélochimie et quelles sont les conséquences et effets ? Et parlez-nous aussi de l'alléopathie.
L'alléon, c'est en grec, c'est réciproque. Et pathie, vous connaissez tous les pathologies, par la néphropathie, ainsi de suite.
Oui, c'est la maladie, la pathologie.
Ça veut dire souffrance, voilà. Donc, l'alléopathie, c'est un phénomène biologique qui permet aux organismes d'ingérer, enfin de modifier la vie des autres organismes.
D'accord.
C'est-à-dire ils peuvent intervenir au niveau de leur production, leur reproduction, leur croissance, leur survie, etc., par la sécrétion de certaines molécules qu'on appelle alléochimiques,
et qui vont agir
sur d'autres espèces.
D'accord. Et quand il y a une pathologie de cette communication, c'est l'alléopathie.
L'alléopathie, oui, c'est-à-dire que ça peut provoquer des modifications de leur vie, donc c'est une souffrance.
Voilà,
ils n'ont pas décidé de changer leur vie, c'est
donc
vous qui produisez.
En fait, il peut y avoir une pathologie de la communication.
Absolument, c'est dans le sens de l'ingérence que ça s'effectue.
Ça, c'est important qu'il y ait une pathologie de la communication, parce qu'actuellement, où il y a beaucoup de communication, un surplus de communication, évidemment, mais il y a un surplus de pathologie. Alors, peut-on avancer qu'il existe une communication entre différentes classifiées et hiérarchies de la vie, comme le règne animal, les embranchements, classe, ordre, famille, genre, espèce ? Est-ce qu'on peut communiquer avec les autres, mais
absolument,
autres qu'humains, voilà.
Absolument. Alors, ça complète un peu votre question précédente, mais par exemple, je sais pas, on peut donner des exemples. On sait que les antilopes adorent les feuilles d'acacia. Quand ils commencent à manger, à grignoter les feuilles d'un acacia, l'acacia sécrète des tanins dans les feuilles qui deviennent amères pour dire bon, bah, ça va, t'as profité, maintenant tu peux aller voir d'autres arbres.
Oui.
C'est une communication, c'est une communication avertissement. Et d'autre part, par exemple, certaines espèces arrivent à sentir l'odeur du vieux qui est en général une information pour l'espèce même, c'est-à-dire que c'est l'odeur qui permet à un jeune de dire voilà, c'est le moment que je prends la place du vieux. Donc cette communication en général entre les espèces, c'est de façon un peu intrusive, c'est-à-dire qu'un peu comme les espions qui captent la communication des autres, un animal peut capter la communication qui est pourvue pour donner des informations aux membres de l'espèce même et de profiter. Par exemple, les prédateurs, ils captent l'odeur de maladie, de vieillesse et ils attaquent les vieux et les malades.
Alors, de toute façon, tous les gens qui possèdent un chat, un chien, même des poissons, savent qu'il y a une communication non verbale. Je vous propose maintenant une pause musicale. En janvier 2023, l'Orchestre de Suisse romane a donné, dans le cadre du Salon d'art contemporain à Genève, une performance de nouveau type, The Art and Sound of Sense. À chacune des trois sessions d'une demi-heure, 50 spectateurs ont pu entendre une musique arrangée par le compositeur suisse Alexandre Mastrangelo, tout en sentant une dizaine d'odeurs et de parfums. Je vous propose donc, pour vous provoquer, une petite pause musicale en écoutant une œuvre d'Alexandre Mastrangelo, Vision. Je vous rappelle que vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus au 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes, en DAB+, ou sur radioallianceplus.fr. Nous recevons aujourd'hui le docteur Farzam Gamgami. Alors je voulais vous demander, vous poser comme question, quelles sont les actions physiologiques des phéromones, car la page 273 de votre livre, vous l'évoquez.
Action des phéromones. Alors, principalement, la distinction entre les phéromones et les odeurs, c'est que les phéromones agissent de façon inconsciente. C'est pour ça que j'ai intitulé mon livre « Sémiochimie inconsciente ». C'est-à-dire que autant le bulbe olfactif est lié aux régions du cerveau qui intègrent, qui analysent, qui mémorisent les odeurs, autant on ne se rend même pas compte qu'on a fixer un phéromone sur nos récepteurs. On ne se rend même pas compte.
Oui, on se rend pas compte.
De façon inconsciente. Et donc, là, les réponses sont également inconscientes. Et d'autre part, ils sont différents des hormones qui, dans l'organisme, fonctionnent et que les phéromones, on les sécrète pour l'extérieur, pour donner une information à notre être.
Voilà, les alors, hormones, c'est à l'intérieur et les phéromones,
voilà,
c'est à l'extérieur.
C'est entre nos cellules, entre nos organes, voilà. Les phéromones, c'est pour donner une information à un autre individu. Alors, ça peut être d'une même race, de même espèce, ainsi de suite. Alors, la fonction des phéromones, tout dépend chez l'animal, hein, une place prépondérante. Chez l'humain, l'évolution du cerveau a fait que de moins en moins de rôles et que même les structures qui captent les phéromones ont disparu, sont calcifiées. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut citer une toute petite expérience, c'est-à-dire que si vous imbibez, par exemple, un coton-tige de phéromones féminins d'un insecte, l'insecte mâle va essayer de s'accoupler avec le coton-tige.
Directement.
Alors que vous faites ça avec un rat, le rat s'excite, mais il ne va pas essayer.
Chez les insectes, le sexe est odorant. C'est d'ailleurs pour ça qu'un numéro 5 de Chanel a tant de succès. Et là, pour finir, existe-t-il une communication non-verbale humaine et qu'est-ce qu'elle peut nous apporter?
Alors, je vous ai dit que donc, la partie phéromonale, en général, s'est régressée et disparue. Bon, malgré cela, il y a des expériences qui montrent qu'on les capte. Donc, c'est le grand mystère. On ne sait pas encore comment on peut toujours les capter alors que les organes ont disparu. Mais c'est indéniable. On réagit aux phéromones féminins quand on a un homme et inversement. Et pourtant, on n'a pas l'organe. Alors, par contre, on peut très bien penser que d'autres communications non verbales, type gestuelle, existent.
Et
ça, il y a par exemple des chercheurs psychologues comme Moore avait fait beaucoup d'expériences là-dessus. Il avait répertorié par exemple 50 ou 100 gestes différents chez les femmes qui ne sont pas verbales, mais qui expliquent leur attirance vis-à-vis d'un homme. Jeter les cheveux en l'air, mettre la main
dans le cou. C'est pour ça que quand on va danser, avant il y avait les boîtes de nuit, il y en a de moins en moins, ben, on danse tout en étant parfumé. C'est ce qu'on voit avec John Travolta dans La Fille du samedi soir, où il se parfume abondamment avant d'aller danser.
Avant, exactement.
Il nous reste à vous remercier infiniment, docteur Farzam Gamgami.
C'est moi qui vous remercie.
Et à vous retrouver dans vos ouvrages écrits aux éditions Hugo Stern. Mais avant de nous quitter, ma rubrique de fin d'émission, des livres sur la santé aujourd'hui, les livres du docteur Farzam Gamgami, La tabacologie, aspects théoriques, cliniques et expérimentaux, Homo sapiens, physiologie et médecine spatiale en plusieurs tomes, Phéromones, la sémiochimie inconsciente des phéromones, Imputative humaine, dont on en a parlé longuement, Quantum de vie, Je te dopamine, moi non plus, Les secrets de l'amour, cette addiction naturelle. Et puis vous m'avez dit que vous alliez sortir un nouvel ouvrage, en deux mots.
Oui. Alors, fin du mois de mars, encore un gros livre de 500-600 pages sortira sur les effets néfastes des cigarettes électroniques.
Un gros problème.
L'erreur qui circule un peu dans l'esprit des gens.
Ah bien, ça sera peut-être eux. L'occasion d'une nouvelle émission de vous inviter sur uniquement les cigarettes électroniques.
Avec plaisir.
Je voudrais rajouter un livre original que j'ai beaucoup apprécié, Un meurtre au Covid-19, un roman de Georges Barrax, autoproclamé comédie polar politico-virale, où se côtoie humour de l'une, intrigue policière incroyablement originale et improbable, une dimension politique, le tout autour d'un sujet ô combien d'actualité, le ou la Covid-19, tout ça aux éditions Hugo Stern. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention et de l'écoute de votre Santé un trésor sur Radio Alliance Plus au 103.2 FM. À bientôt. Je reste votre bien dévoué.
Alliance Plus.